Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, sommes-nous d'indécrottables jacobins? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà bientôt 2 semaines que Gérard Collomb a démissionné du ministère de l'Intérieur et le remaniement que sa décision a provoqué se fait toujours attendre. Il est vrai que le poste à pourvoir n'est pas n'importe lequel. Garant de la sécurité des biens et des personnes, le ministre de l'Intérieur a aussi en charge d'administrer les territoires. Il veille, selon les textes officiels, au respect des libertés locales et des compétences des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Alors de ce point de vue, Gérard Collomb aura fait preuve d'un certain zèle, puisque c'est pour partir à la conquête de la métropole de Lyon, une création récente des lois de décentralisation, qu'il a choisi de quitter le gouvernement, comme si diriger une grande collectivité locale pouvait procurer davantage de pouvoir qu'être à la tête d'un grand ministère. C'est pourtant une toute autre musique que font entendre depuis quelques mois les présidents de régions, de départements et l'Association des maires de France, qui reprochent au président de la République d'avoir recentralisé le pouvoir et donc d'avoir affaibli les territoires. Alors, il y a quelques jours, Emmanuel Macron leur a répondu en promettant de mettre en œuvre un pacte girondin, synonyme de décentralisation du pouvoir. Mais la pratique et les institutions ne favorisent-elles pas le contraire? Alors sommes-nous d'indécrottables jacobins? C'est la question du soir que je vais poser à 3 invités. Laurence Lemouzy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de la revue Pouvoirs locaux et la directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale. Pour discuter avec vous, Patrick Braouezek, bonsoir.
Bonsoir.
Président de Pleine Commune, qui est une intercommunalité qui regroupe 10 de communes de Seine-Saint-Denis.
Ce n'est plus une intercommunalité grâce au monsieur que vous allez présenter juste derrière moi.
Mince,
c'est un territoire maintenant.
C'est un territoire. Bon, ben voyez, première erreur. J'espère que je n'en ferai pas d'autres. Vous êtes bien vice-président, un des vice-présidents de la métropole du Grand Paris.
C'est exact.
Et vous avez été député maire communiste de Saint-Denis. Alors, le monsieur dont vous parliez, qui vous a privé donc du coup de votre titre d'intercommunalité, c'est Jean-Christophe Boyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, si vous avez privé Patrick Braouezek de ce titre, c'est en tant que, j'imagine, que conseiller spécial de Marie-Lise Lebranchu, lorsque celle-ci était ministre
Absolument.
De la décentralisation et de la réforme de l'État. C'était de quelle année à quelle année?
De 2012 à 2016.
Et puis, vous avez été maire de Laval pendant 2 ans. Et là, c'était...
Et là, c'était entre 2012 et 2014. Guillaume Garot était devenu ministre à l'époque de François Hollande.
Voilà, je préfère vous le laisser dire, comme ça m'évite de faire une erreur dans les dates. Alors, on va évoquer ce soir donc justement la question de la décentralisation, peut-être de la recentralisation au niveau national, mais également au niveau local. Mais je voudrais d'abord vous poser une question sur cette attente importante du remaniement qui témoigne d'un intérêt extrêmement sensible au pouvoir lorsqu'il s'exerce au niveau national. On voit bien que quand il s'agit de remanier un gouvernement, tout le monde est extrêmement attentif à ces questions. Est-ce que ça traduit, selon vous, de manière assez fidèle, la répartition des pouvoirs en France? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment au niveau national que l'essentiel de pouvoirs sont concentrés aujourd'hui, Laurence Lemouzy?
Alors ça dépend ce qu'on entend par pouvoir. Si on entend le pouvoir d'agir, il y a des chiffres simples. Le pouvoir d'agir, il est plutôt du côté des territoires. 70% de l'investissement public et plus est réalisé par les acteurs territoriaux. Donc ce pouvoir-là, il est plutôt effectivement du côté des collectivités territoriales. On parle davantage d'ailleurs d'impuissance de l'État, de ce point de vue-là, et d'impuissance du national à affronter bien des difficultés de la société française. Et si on en croit les mouvements et les élus nationaux qui vont plutôt, vous le rappeliez pour Gérard Collomb, pour en citer d'autres, vers les territoires. On pourrait se dire qu'il y a un temps liquide du débat national, de toutes ces questions que nous nous posons sur le remaniement, et un temps solide des territoires, où là, on est face aux réalités, et on est souvent, et c'est peut-être là le sujet de la discorde, lorsqu'on est dans les territoires, considéré comme un prestataire de services de l'État, du national, et pas assez comme un acteur libre de décider.
Est-ce qu'on pourrait dire, Patrick Braouezek, et même question à Jean-Christophe Boyer, qu'il y a peut-être un décalage entre la perception de l'endroit où se situe l'essentiel du pouvoir aujourd'hui et la réalité de son exercice?
Oui, sans doute, et c'est d'ailleurs assez dommageable, parce que je partage complètement les propos qui viennent d'être tenus. On a aujourd'hui des territoires, et je suis président d'un territoire, même si j'ai perdu cet aspect intercommunalité. Néanmoins, on est quand même dans l'intercommunalité, qu'on le veuille ou non. Et c'est bien là où effectivement un grand nombre de décisions très concrètes vis-à-vis de nos populations sont prises. Il y a sans doute, je rejoins le liquide et le solide qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup d'attentes de la part d'un pouvoir central, et lieu de pouvoir, enfin qui est considéré comme un lieu de pouvoir, mais en réalité, est-ce que c'est là aujourd'hui que le pouvoir se fait ? J'en suis pas du tout convaincu. D'autant qu'un certain nombre de compétences régaliennes de l'État sont de plus en plus données aux collectivités territoriales. Moi, il y a 15 ans, 20 ans, j'étais maire de Saint-Denis, j'avais pas de police municipale. Aujourd'hui, il y a encore un peu de police nationale, oui, mais les collectivités sont confrontées à toutes ces questions, donc de créer des polices municipales. On laisse de plus en plus au secteur privé la question de la sécurité. Donc ces missions régaliennes de l'État, éducation, police, justice, sont aujourd'hui de moins en moins prises en charge par l'État directement. Et à contrario, il y a une certaine recentralisation sur d'autres compétences qui sont aujourd'hui exercées par les collectivités. Et on semble, on y viendra sans doute dans le débat, le meilleur exemple, c'est sans doute la métropole du Grand Paris.
Ouais, ce qui peut sembler assez paradoxal, mais ça ne l'est peut-être pas. Jean-Christophe Boyer.
Moi, je crois qu'il faut qu'on soit un peu humble avec les attentes des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens de nos communes et les citoyens français en général sont plutôt sensibles à ce qui se passe pour eux que qui l'organise. Et moi, je l'ai vécu en tant que maire. Vous êtes sollicité au nom du président de département, au nom du président de région. On frappe la porte de la mairie et on vient vous voir parce qu'il y a un problème à régler.
Quel que soit le problème.
Quel que soit le problème et quelle que soit la compétence. En revanche, et c'est tout à fait normal, il y a un dialogue permanent entre État et élus, entre État et associations d'élus qui fait que chacun cherche un peu à avoir des prérogatives supplémentaires ou à s'en délester de certaines de part et d'autre. Mais moi, je vois aujourd'hui cela plutôt comme un peu les associations d'élus comme des corps intermédiaires qui vont défendre l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des collectivités territoriales. Mais d'une certaine façon, et on pourra y revenir, c'est aussi ce qui fait la permanence de l'État. C'est que si les associations d'élus étaient s'entendaient ensemble pour un vrai projet de décentralisation, l'État n'aurait plus le choix. Alors qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui sont et des stratégies qui sont perpendiculaires les unes aux autres.
Mais comment est-ce que vous expliquez, Jean-Christophe Boyer, si vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même effectivement l'essentiel du pouvoir, pas l'essentiel en tout cas, une grande part du pouvoir qui se retrouve au niveau local, comment se fait-il que la perception ne soit pas celle-ci et qu'on en soit toujours à considérer que nous vivons dans un pays qui est très marqué par le jacobinisme ?
Parce qu'en fait, dans le discours que l'on tient depuis une vingtaine d'années maintenant, on confond État et gouvernement. Et donc, quand vous reprochez aujourd'hui quelque chose, quand vous êtes maire, quand vous êtes président de département, que vous reprochez quelque chose au gouvernement, en fait, vous vous dirigez plutôt vers l'État. Et donc, dans la presse, dans l'ensemble de vos publications, il va y avoir cette confusion qui va faire que, au lieu de contester une décision législative ou exécutive, vous allez vous tourner vers l'État et donc vos citoyens, vous allez emmener vos citoyens aussi dans cette critique de l'État central, alors que bon an, mal an, l'ensemble des études le montrent, on est dans un mouvement de décentralisation, certes lent et chaotique, depuis 50 ans maintenant.
Patrick Braouezek.
Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous disiez, parce que je pense que nos concitoyens perçoivent assez bien où sont les niveaux de responsabilité. Et la question qui nous est posée, c'est pas finalement le nombre de niveaux, de strates, ou le fameux millefeuille, mais bien d'identifier qui fait quoi. Et comment on répond effectivement à leurs attentes, à leurs besoins. Et on sait très bien qu'ils sont, comme vient de le dire Jean-Christophe, ils se tournent de manière très naturelle vers le maire, même si c'est pas d'ailleurs dans ses compétences. Et je trouve que la posture du maire aujourd'hui est de plus en plus compliquée parce qu'il a effectivement des compétences. Il a un grand nombre de compétences qui ont été transférées aussi, soit au territoire, notamment dans les communautés d'agglomération. Il y a des compétences départementales, régionales. Et finalement, il doit lui-même, alors c'est ce que vient de dire Jean-Christophe, c'est-à-dire qu'on doit, de manière régulière, je parle encore en qu'élu local, nous tourner vers les autres institutions pour avoir des réponses. Et ça, c'est là où il y a sans doute un hiatus entre l'image du pouvoir, l'image globale du pouvoir au niveau national, et puis la réalité vécue par les habitants.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment de la discussion, Laurence Lemouzy, que la France n'est peut-être pas un pays aussi jacobin que certains l'imaginent? Et d'ailleurs, est-ce que l'utilisation de ce terme de jacobinisme encore pertinente aujourd'hui? On va l'entendre d'ailleurs dans un instant avec Emmanuel Macron qui parle de pacte girondin, mais si on parle de pacte girondin, c'est qu'on fait référence forcément à ce qui serait l'opposé, c'est-à-dire le jacobinisme.
Oui, alors là, on est en plein imaginaire collectif français, voire en pleine littérature. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le terme de Girondin, on le doit à Alphonse de Lamartine, qui avait écrit vers 1847 une histoire des Girondins. Mais en fait, il n'y avait pas d'abord des Girondins, il y avait des Brissotins, on les appelait comme ça, et des Rolandistes. Et il côtoyait des montagnards au sein d'un club qui s'appelait le Club des Jacobins, qui est un club de révolutionnaires. Et à un moment donné, ils étaient tous jacobins. Ce qui fait dire à certains de nos contemporains, d'ailleurs, que les Girondins ne sont que des jacobins hypocrites. C'est-à-dire, ils ont envie de moins d'État tout en se protégeant de l'État. Et tous les deux se sont entrechoqués. Et puis Louis XVI a fait appel aux Girondins. Et puis les montagnards n'ont pas été très d'accord. Alors les montagnards, je précise, n'habitaient pas du tout en montagne. Ils siégeaient sur les travées les plus hautes de l'Assemblée, qui était constituante. Voilà, mais il n'en demeure pas moins que là, on travaille un récit qui est en fait le récit très français de la décentralisation. C'est comment un pays unitaire peut accueillir sereinement l'idée de décentralisation. Dans un système fédéral, on en parlerait autrement, mais là, il y a une tension. Il y a une tension entre unité, uniformité et égalité. Comment on fait avec une société française, un pays d'ailleurs qui est très divers dans sa géographie, qui est très divers dans les peuples aussi qu'il a accumulés, et comment on fait avec cette diversité lorsqu'on veut continuer à être un pays et parler d'unité nationale. Et je crois que les collectivités ont un rôle extrêmement important pour faire unité nationale. Et la mise en scène de la décentralisation aujourd'hui, dans ce récit de la discorde entre l'État et les associations d'élus, creuse un mauvais fossé, creuse des souffrances françaises alors qu'elles devraient les réconcilier. Je pense que si les collectivités, l'œuvre utile qu'elles pourraient faire, c'est de se penser comme porteuses d'un intérêt général tout autant que l'État porte l'intérêt général de la France.
Alors vous allez me dire de quelle manière Emmanuel Macron s'inscrit ou pas dans ce récit, et si dans la façon dont il parle de la décentralisation, il contribue justement à creuser ce fossé qu'il pourrait y avoir entre l'État et les collectivités locales. Écoutez-le, c'était il y a quelques jours de cela, le 4 octobre dernier, devant le Conseil constitutionnel pour le 60e anniversaire de la 5e République. Et il évoque le pacte girondin qu'il avait déjà évoqué en juillet 2017.
L'État ne peut pas réussir seul. Il doit conjuguer son action avec celle des collectivités locales qui sont devenues le premier acteur de nombreuses politiques publiques en matière sociale, économique, culturelle, environnementale. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité porter un pacte girondin avec les collectivités en leur permettant d'adopter avec l'État une démarche partenariale sur la durée. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous permettions aux collectivités territoriales, à l'article 72 de notre Constitution, d'adapter, dans leur domaine de compétences, les lois et règlements aux réalités de leur territoire. À la séparation horizontale des pouvoirs correspond une séparation verticale, bien exprimée par le principe de subsidiarité, et qui, loin d'affaiblir l'État, le renforce en lui permettant de se concentrer à l'échelle centrale sur ses fonctions essentielles.
Que pensez-vous, Jean-Christophe Boyer, de cette façon d'envisager justement les rapports entre les différentes strates du pouvoir telles qu'exprimées par Emmanuel Macron?
Mais j'en pense du bien, parce que c'est un discours qui est assez connu, puisque tenu par de nombreux présidents de la République. Il faut savoir que l'idée de décentralisation, ça reste une idée intellectuellement moderne et que personne ne peut être contre. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dans la rue vous dire « moi je suis centralisateur ». En revanche, quand on regarde les premiers actes du président Macron, on tend plutôt à penser qu'il est plutôt centralisateur, au sens où sa mise, ça va être un peu technique, mais sa mise sous norme de dépenses, donc le contrôle des dépenses des collectivités et qui passe un contrat avec l'État, c'est plutôt, on va dire, une gestion sous la forme d'agence telle qu'on pourrait l'envisager à l'anglo-saxonne. On va déléguer un certain nombre de compétences aux collectivités, mais on va maîtriser leurs dépenses. Donc, il y a une tutelle qui va s'exercer. Donc, pour l'instant, les premiers actes du président Macron, sont des actes plutôt jacobins.
C'est d'ailleurs ce que lui reproche un certain nombre d'associations de collectivités. Prenons peut-être pas toutes toutes les plus importantes, mais enfin en tout cas trois des plus importantes, à savoir l'Association des maires de France, qui est présidée par François Baroin, celle des départements de France, qui est présidée par Dominique Bussereau, et le président des régions de France, Hervé Morin. Alors certes, ce sont trois élus qui sont classés à droite, mais ils représentent des collectivités qui sont aussi bien à droite qu'à gauche, et qui expliquent qu'on est face aujourd'hui à une politique recentralisatrice sans précédent depuis 1982. Ce diagnostic, vous le partageriez les uns et les autres, Jean-Christophe Boyer ?
Pour être girondin ou décentralisateur, pour moi, il faut trois conditions. La première condition, c'est qu'il faut avoir un président décentralisateur. Là, pour l'instant, je dirais jusqu'à présent, on va dire que Emmanuel Macron est un décentralisateur sceptique. On pourra y revenir. Il faut aussi, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des associations d'élus d'accord entre elles. Elles sont toujours d'accord quand il s'agit de négocier avec le gouvernement, mais ensuite, dans le détail, et on l'a vu dans la rédaction de chacun des projets de loi, c'est quelque chose qui devient extrêmement complexe et voire douloureux. Et puis, et je crois que c'est la chance aujourd'hui d'Emmanuel Macron, il faut, dans ces conditions pour être décentralisateur, ne pas avoir des membres de son parti à la tête de grandes collectivités. Parce que dès que vous... Et ça, Emmanuel Macron a encore... Enfin, je vais lui souhaiter du positif.
En direct.
Je vais lui souhaiter du positif. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans 2 ans, il a vraisemblablement des grandes communes, dans 3 ans, des départements, etc. Ça peut pouvoir signifier que, au sein même de son propre parti, des contre-pouvoirs décentralisateurs ou perturbateurs pourraient exister.
Donc pour l'instant, il les a pas, donc il peut faire ce qu'il veut en gros.
Pour l'instant, sa chance, on va dire, par rapport à ce qu'a vécu par exemple François Hollande, qui avait à gauche l'ensemble des associations d'élus, l'Assemblée nationale et le Sénat, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait au fond un blocage, alors que pourtant ça pouvait apparaître comme une autoroute.
Patrick Barboisek.
Je pense qu'il y a une déclaration qui est une déclaration d'intention, mais qui se heurte à la réalité de ce que vivent aujourd'hui les élus, quel que soit d'ailleurs leur niveau. Jean-Christophe l'a dit, on a quand même le sentiment d'être sous tutelle financière de la part des politiques publiques que l'on mène. Et que d'un autre côté, l'État essaie de reconcentrer, de recentraliser des compétences qui lui semblent opportunes pour peut-être écrire un récit national.
Les régions mettent en avant, par exemple, la question de la formation professionnelle
par
qui
exemple,
est recentralisée.
Par exemple. Et puis au niveau de la métropole, du Grand Paris. Alors, parce qu'à chaque strate, finalement, on est en train d'essayer de recentraliser.
Et mais il y a peut-être besoin de ce genre d'ajustement de temps en temps aussi, non ? C'est-à-dire la décentralisation, elle n'est pas
oui,
forcément
totalement... Oui, mais à condition que l'État joue son rôle. Et par rapport à ce que disait Laurence tout à l'heure, on est aujourd'hui, et il y a un certain nombre de rapports qui l'ont montré, on est en rupture d'égalité au niveau national, en rupture d'égalité républicaine. Il y a un rapport parlementaire qui l'a bien montré par rapport à des départements comme la Seine-Saint-Denis. Donc, quelle garantie a-t-on aujourd'hui, alors que l'État, dans ses missions régaliennes, éducation, police, sécurité, n'est pas capable d'assurer cette égalité républicaine, quelle assurance a-t-on pour que l'État puisse mieux à même, finalement, de se substituer aux autres collectivités locales pour mener à bien d'autres politiques. Donc je crois qu'il y a beaucoup de défiance aujourd'hui de la part des associations d'élus et des élus eux-mêmes qui, au demeurant, comme le disait Jean-Christophe, sont les premiers, en première ligne pour affronter les demandes, les besoins des populations. Donc il y a un véritable... Pour moi, il y a une crise de confiance. Quoi. Crise de confiance importante entre l'État et les collectivités locales. Plus personne ne fait confiance aujourd'hui à un État qui, dans sa mission régalienne, pourrait assurer des compétences qui ne sont pas encore les siennes, parce qu'il justement il a du mal à tenir justement la route par rapport à ses compétences régaliennes qu'il a déjà.
Laurence Lemousier, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène de recentralisation ? Bien, est-ce qu'il n'y a pas également aussi une façon peut-être pour certaines grandes collectivités locales d'exister, une façon d'exister justement en étant un peu dans la plainte et dans la revendication ?
Alors, si recentralisation il y a, elle est essentiellement financière. Ça, effectivement, il n'y a pas à en douter une seconde. Il y a moins d'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. C'est un fait qui ne date pas d'ailleurs de ce gouvernement, non. Qu'on peut dater de 2010, oui. Voire avance assez égrené au fil des différents gouvernements. Il n'y a pas eu depuis longtemps non plus d'acte de décentralisation. On a arrangé le mécano, hein, on a arrangé les périmètres.
Pas depuis longtemps,
c'est-à-dire que
2015,
depuis...
la loi NOTRe.
Ce n'est pas une loi de décentralisation. C'est une loi qui organise les pouvoirs locaux. Ah non, certainement pas. La dernière, allez, on la date du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, oui. Où il y a eu les derniers transferts de compétences, 2003-2004. Mais je suis sûre que mon camarade d'à côté va infléchir ma position. Donc pour ce qui me concerne, il n'y en a pas eu. Ce que nous dit Emmanuel Macron, moi je crois qu'il est ni girondin ni jacobin. Je crois que cette équation ne lui va pas tellement. Je suis assez sensible à son discours parce que je pense qu'il est plutôt un amateur des libertés, on va dire un peu même de ce qu'il peut transgresser. Le problème, c'est qu'il a une technostructure à Bercy, dont il a fait peut-être partie et qu'il a dirigé, qui ne partage absolument pas cette culture de l'émancipation des collectivités. Et souvent, c'est Bercy qui regarde les collectivités comme des prestataires de services à qui il faut faire des économies pour que le produit France soit moins cher, le produit politique publique soit moins cher. Donc là, on a une révolution culturelle. C'est Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui dit cette révolution, elle a commencé en 82, elle s'est arrêtée assez rapidement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc on est dans une équation où il demande aux collectivités aussi d'être contributives, de faire des propositions. J'ai été très attentive à une initiative, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui ont pris l'initiative de proposer un projet d'euro-collectivité territoriale, donc rebattre le jeu sur une partie de la région Grand Est. Je me suis dit, est-ce que le gouvernement va prendre la main. Il est en train de répondre plutôt favorablement à cette initiative, c'est-à-dire répondre à la différenciation territoriale.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas dans la loi NOTRe de 2015 quand même l'idée qu'on attribuait davantage de compétences, en particulier aux régions, notamment sur la question économique ? Est-ce que ça ne participe pas d'une forme de décentralisation ?
Je vous l'accorde, il y a eu un effort de simplification et de clarification. Les régions chefs de file du développement économique et les départements pour l'action sanitaire et sociale, et pour le coup, là, je suis extrêmement étonnée que l'apprentissage soit sorti de l'escarcelle des régions. C'est même quelque chose qui est totalement incohérent. Quand le développement économique vise à renforcer l'attractivité territoriale et que le principe de l'attractivité, c'est d'avoir de l'employabilité, donc des gens formés pour des entreprises qui vont produire de la croissance sur un territoire, enlever la chaîne et le chaînage, c'est casser plutôt que construire. Ça, c'est une erreur.
Jean-Christophe Boyer, je rappelle, vous avez été maire de Laval, mais aussi conseiller spécial de Marie-Lise Le Branchu quand elle était ministre de la décentralisation et de la fonction publique sous François Hollande. Donc c'est elle qui a notamment porté cette loi NOTRe, et j'imagine que vous y avez un petit peu aussi réfléchi de votre côté. Est-ce que les collectivités locales n'ont pas suffisamment peut-être bénéficié de cette loi pour avoir davantage d'autonomie ?
On a commis une première erreur, c'est que dans la campagne de François Hollande, on a évoqué l'acte 3 de la décentralisation. Et je crois que, et Maryse Le Branchu le rappelait souvent, il faut arrêter avec ces actes 1 qui seraient 81, 82, l'acte 2 qui serait Raffarin. Pour moi, la décentralisation de Jean-Pierre Raffarin, on est vraiment clairement dans la délégation de services publics au département d'un certain nombre de missions, et pas du tout dans un acte décentralisateur où on allait laisser les collectivités gérer elles-mêmes la question du RSA et de ce genre de choses. Je crois que l'objectif qui a été recherché dans la loi NOTRe, je ne dis pas s'il a été atteint, c'était qu'on en finisse avec ces lois et que chaque territoire puisse se prendre en main. Vous avez aujourd'hui la possibilité, si vous êtes deux départements, de vous entendre et de fusionner pour n'en devenir qu'un seul. Une métropole peut fusionner librement avec un département. Cela s'est fait dans le Rhône avec Gérard Collomb il y a quelques années. Donc je crois que les élus ont à se prendre en charge avec les textes qui existent et à proposer effectivement des choses au gouvernement qui devra, si besoin, passer par la loi, si besoin, passer par la Constitution éventuellement, mais qu'on n'ait plus cette référence systématique à l'État qui va bloquer le processus, alors qu'aujourd'hui, tous les textes permettent d'agir librement. Évidemment, hors le corset financier, je reviens pas parce que Laurence Lemouzy l'a parfaitement décrit, mais on peut s'entendre différemment sur les territoires aujourd'hui et surtout qu'il n'y ait pas de tentative d'acte 4 de la décentralisation.
Hors le corset financier, qui n'est pas un des moindres obstacles, bien entendu. Patrick Braouzec, donc président du territoire de Pleine Commune en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous considérez que vous avez les mains libres pour mener une politique au niveau local qui serait, si ce n'est totalement indépendante, on va dire, de la politique nationale, mais enfin en tout cas autonome ?
On ne peut pas être en dehors de la politique nationale. Et si effectivement on enlève les questions financières, oui, il y a une véritable possibilité, en tout cas de travail partagé, commun, avec l'ensemble des communes qui sont dans le territoire de pleine commune. On l'a créé il y a maintenant 18 ans. C'est une véritable coopérative de ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision contraire à l'avis de la ville, l'avis majoritaire de la ville concernée. Et pourtant, dans un équilibre politique très, très varié, puisque j'ai des maires communistes, maires socialistes, maires de droite, maires un peu collégie les Verts. Donc, dans cette diversité. Donc, on a effectivement une autonomie de travail qui nous est aujourd'hui de plus en plus contesté par la mise en place de la métropole du Grand Paris et qui nous permet pas, parce qu'on est privé, qui nous prive aujourd'hui des ressources qui nous permettent d'être en pleine autonomie. Donc là, il y a une vraie question, parce que la question financière, on ne peut pas la mettre de côté. Elle est même capitale. Nous, on pourrait continuer à être le bras armé de l'État et de la métropole du Grand Paris à partir du moment où on ne serait plus que des exécutants, finalement, de politiques qui sont décidées ailleurs. Et où est le citoyen là-dedans? Voilà. Et là, une des questions qu'on a posées, et Jean-Christophe s'en souvient très bien, quand on a travaillé sur cette question de la métropole du Grand Paris, comment l'a fait-on? On l'a fait en partant d'une vision d'en haut, en gros, on voit le schéma, ou est-ce qu'on l'a construit à partir des réalités des territoriales, dans leur diversité? Nous, on répète, et on continue à répéter aujourd'hui que Paris, ce n'est pas pleine commune, c'est pas Neuilly-sur-Seine, enfin, c'est pas Grand Paris, Seine-Ouest, et que personne d'ailleurs ne veut ressembler à l'autre. Faut l'avoir en tête. Mais comment on fait métropole en partant de cette diversité, c'est en partant effectivement des réalités et la façon dont les politiques se sont menées, c'est la vraie question. Donc cette autonomie, mise à part la question financière, elle existe encore, mais faut-il encore qu'elle puisse exister dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'il y a quand même des questions qui ne sont pas tranchées au niveau de cette métropole.
Jean-Christophe Boyer.
Il faut savoir que dans de nombreux territoires, et pour sortir de Paris, on peut aller sur le territoire de Marseille, de la métropole de Marseille. Sur ces territoires, on va dire la grande pauvreté côtoie la grande richesse. Et que s'il n'y a pas, soit des élus locaux, soit l'État en dernier recours, qui organise un peu cette meilleure répartition des richesses, ça veut dire qu'on va laisser vivre ces inégalités. Quand le gouvernement Hérault fait le choix de créer la métropole Marseille, Aix-Provence, métropole à Marseille, on est sur un enjeu de mise en commun des richesses et de partage de la solidarité avec des élus qui, vraisemblablement, jusque-là, n'arrivaient pas à faire unité. Alors, ils ont réussi à faire unité contre le gouvernement, mais l'enjeu du logement, l'enjeu du transport, l'enjeu de la vie quotidienne des habitants de ces territoires a fait que l'État, alors que le gouvernement, a légiféré. Donc, il y a
toujours... Mais pourquoi ça marcherait mieux dans les métropoles que ça ne marchait, par exemple, au niveau des départements?
Parce que... Les départements, et c'était un long débat, les départements aujourd'hui, vous avez des départements avec des situations très différentes. On ne peut pas dire que les départements ont réussi à gommer les inégalités territoriales. Il y a aujourd'hui des départements très riches, d'autres très pauvres, et malheureusement...
Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, ce sont quand même les mêmes élus qui se retrouvent dans ces différentes structures. Donc pourquoi est-ce qu'ils arriveraient mieux à travailler dans le cadre d'une métropole que dans le cadre d'une structure plus traditionnelle, vous voyez?
Dans le cadre de la métropole, ce qui était important pour nous, et Patrick Braouezek évoquait la question financière, c'est la mise en commun des ressources. À un moment donné, il faut qu'on puisse mettre en commun les ressources. Quand vous êtes mieux situé, que vous avez de très grandes entreprises sur votre territoire, peut-être qu'il faut aller aider le voisin, qui lui est un peu moins riche et qui aura besoin de vos ressources. Donc l'intérêt, c'était... Face à l'obligation de s'entendre qu'a créé le gouvernement, les élus ont maintenant ce projet à gérer. Et à Paris, c'était un petit peu la même chose, on le sait, c'était aussi une forme de mutualisation entre l'Est et l'Ouest parisien.
Alors je vais vous faire réagir, Patrick Braouezek, mais juste avant Laurence Mouziesco, on peut parler aujourd'hui d'une métropolisation, aujourd'hui en France. Est-ce que ce serait la logique peut-être de l'organisation au niveau des collectivités territoriales? Est-ce que ça ne crée pas une forme là de centralisation du pouvoir, mais au niveau local ou régional?
Il y a une logique après les années du couple commune-département, on va plutôt vers une logique métropole-région. Bon, ça, c'est valable au niveau européen, ça peut l'être sur la France. Mais je pense que là, c'est presque un raisonnement hors sol. C'est-à-dire que les vraies réalités, c'est que peut-être, effectivement, il y a une performance de la métropole à Lyon, mais peut-être que ce n'est pas le cas à Toulouse ou à Lille ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on entre, et c'est ça la révolution culturelle, dans une différenciation territoriale. On ne peut pas administrer, je l'ai souvent dit sur votre plateau, le même médicament à des territoires qui ne souffrent pas des mêmes maladies. C'est impossible. Donc il y a un ajustement de l'action publique.
Mais est-ce que cette tentation, elle existe aujourd'hui, justement? Cette tentation d'appliquer ce modèle des métropoles à un maximum
oui,
de...
Oui, elle explique parce que c'est la rationalisation, c'est le jardin à la française, on aime que tout soit ordonné, c'est l'uniformité qui serait susceptible d'être le garant de l'égalité. Or, la décentralisation, en étant uniforme, n'a pas garanti l'égalité. Ça se saurait, elle a même produit des inégalités. Et dans une société mouvante qui ne demande pas la même chose, qui n'a pas la même composition socio-économique, on ne peut pas appliquer cette règle uniforme, on ne peut pas faire des oasis avec des déserts périphériques partout. Il ne faut absolument pas prendre le risque de créer à nouveau des petites patries, c'est-à-dire des féodalités ici et là, avec on recopie à une échelle territoriale ce qui se passe au plan national. Moi, je martèle un discours face à l'urgence quand même, à l'insécurité sociale de notre pays et les souffrances, que si l'État n'est plus capable tout à fait d'unifier la société française, je crois qu'il est du devoir des collectivités locales de se poser comme des facteurs d'unité, mais pour ça, il faut qu'elles s'émancipent. Il faut qu'elles s'émancipent de la tutelle de l'État, qu'elles quittent le rapport adolescent avec l'État, qui est « je t'aime moi non plus ».
Et image qu'elles ne soient pas en compétition entre elles.
Et qu'elles ne soient pas en compétition entre elles. Et tant et si bien que l'initiative qui avait été portée par Marie-Lise Lebranchu, la fameuse CTAP, la Conférence Territoriale de l'Action Publique, qui était de se dire au niveau horizontal, on se serre les coudes, on se chaîne, on se répartit en fonction des priorités de notre territoire, les compétences et le qui fait quoi, eh bien, il reste par moment lettre morte, en tout cas dans
mais
beaucoup de territoires.
Juste précision.
Juste Patrick Braouezek et ensuite
Jean-Christophe. Ce que disait Jean-Christophe, même si on ne dénomme pas acte 3 de la décentralisation, moi j'ai beaucoup espéré, lorsque j'ai entendu à la Sorbonne, j'ai beaucoup espéré de François Hollande par rapport à ce que vient de dire Laurence par rapport au mécano institutionnel. Et finalement, en adaptant le mécano institutionnel en fonction des réalités, des territoires, parce qu'on n'est pas dans la même situation à Marseille qu'à Lyon, qu'en région Île-de-France. Enfin, on ne peut pas calquer le mécanisme de la métropole de Lyon à la métropole de Paris. Il y a 7 millions d'habitants, au moins, peut-être même 12 si on prend la métropole région. Et donc, il y a nécessité de souplesse et d'adaptabilité par rapport à la réalité. Et la deuxième chose que je veux dire par rapport à ce que disait Jean-Christophe, c'est OK, tout ce qui est du domaine de la solidarité, de la péréquation, mais n'oublions pas que ce qui fait drame aujourd'hui dans la plupart des collectivités locales, c'est la question du droit commun. Les politiques de droit commun, qui ne sont pas égalitaires. Quand je parlais tout à l'heure de ce rapport sur la rupture d'égalité en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas par des politiques de replâtrage qu'on réglera les grandes questions qu'il y a dans ce département. C'est parce que c'est en mettant en place des politiques de droit commun qui considèrent qu'on doit être à égalité avec les autres départements, avec les autres métropoles, avec les autres régions, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que beaucoup parlent de discrimination positive. Moi, c'est un mot dont j'ai horreur parce qu'on a l'impression qu'on fait toujours plus pour les mêmes alors que ce n'est pas vrai. Et qu'aujourd'hui, il y a un déficit énorme en termes de moyens pour l'enseignement, pour la police, pour la justice, sur un département comme la Seine-Saint-Denis. Et c'est bien ça aussi qui est en cause. C'est-à-dire que moi, je ne culte pas dans le débat sur la question de la décentralisation des compétences régaliennes de l'État parce que sinon, on sera dans... On peut continuer la décentralisation, enfin ou recentraliser, mais la vraie question, elle est ailleurs. Pour moi, elle est dans l'articulation entre des missions d'État qui doivent être assumées par l'État et la liberté au niveau des collectivités locales de pouvoir mener les politiques publiques qui sont issues la proposition qu'ils font au niveau de leur population et leur laisser les moyens.
Jean-Christophe Boyer.
Pour répondre sur la question des métropoles, moi je suis pas ici le défenseur des métropoles, mais on avait envisagé, quand on était au gouvernement, d'en faire 5 ou 6. Et puis les élus sont venus...
Ça c'est vrai qu'il y a eu une surenchère des côtés des
donc,
élus.
Et donc finalement on est sorti à 13 ou 14, et il doit y en avoir une vingtaine aujourd'hui, parce que le terme métropole était important pour l'ensemble de ces villes. Donc il n'y avait pas de démarche métropolitaine à l'échelle européenne, seule Paris est une métropole. Je voudrais répondre aussi qu'on n'a pas du tout uniformisé, même si je parle pour défendre un bilan, mais plutôt éventuellement pour poser des choses, mais on n'a pas du tout uniformisé. Le schéma institutionnel de Paris, de Lyon et de Marseille, les trois sont différents parce qu'on s'est adapté. Moi, je crois plutôt que... Pour aller un peu plus loin et voir ce qu'il faudrait faire, pour éviter qu'on parle de toute l'année ou tous les jours de décentralisation, moi je serais assez pour que comme il existe un projet de loi de finances de la sécurité sociale, chaque année on puisse avoir un projet de loi des territoires qui permettrait de clarifier déjà les flux financiers qui existent entre l'État et les collectivités, parce que c'est l'objet d'un débat permanent, et qui permettrait de faire ces ajustements que vous évoquiez tout à l'heure, Hervé Gardette, c'est-à-dire qu'on soit plus dans des actes 4, 5, 6 de la décentralisation, mais qu'à partir du moment où Patrick Braouezek et son voisin s'entendent, qu'ils puissent fusionner et que ce soit pris en compte dans un projet de loi, enfin qu'on ait quelque chose de beaucoup plus simple et qui mette de la fluidité dans ce qui fait aujourd'hui un besoin impératif État et collectivité, c'est d'affronter le monde de demain.
Mais si c'est un projet de loi, ça va être forcément porté par le gouvernement. Est-ce qu'il faut que ces questions-là soient portées justement par le niveau le plus national, disons, du pouvoir, et par quel type de ministre, disons, tiens, puisqu'on est dans l'attente du remaniement, Jean-Christophe Boyer, c'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait à nouveau un ou une ministre de la décentralisation?
Alors, moi, je pense que l'idée qu'on sépare le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales, pour moi, est plutôt une idée nécessaire.
C'est-à-dire, on sépare la police des collectivités.
On sépare l'État en région des collectivités locales, ce qui évite, on va dire, des rapports un peu comme ça, un peu consanguins au sein d'un même ministère, alors que les enjeux sont différents. Les collectivités locales ont intérêt à avoir une voix propre, et au sein du gouvernement une personne qui les suit, qui peut dialoguer de façon tout à fait amicale avec le ministre de l'Intérieur qui sera choisi, mais qu'il y ait malgré tout ce dialogue. Et si le projet de loi territoire que j'évoquais, qui serait vu annuellement, c'est pas simplement pour dire c'est l'État qui doit tout, c'est l'État qui doit prendre en compte les besoins et qui faire ensuite.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Laurent Semouzier et Patrick Braouezek, de scinder du coup le ministère de l'Intérieur et d'avoir un ministère ad hoc chargé de la décentralisation, Laurence Temouzi?
Alors moi, je prends une autre direction, trois secondes. Ouais. Le Sénat, on change sa composition. Les membres de droit sont des présidents de région, par exemple, un peu plus représentés, voire des présidents de département. Mais surtout, on crée un pouvoir normatif régional. C'est-à-dire qu'on a des lois cadres, la fabrique de la loi se fait différemment. Des lois cadres et un parlementarisme régional avec une vraie délibération et maturité politique à l'échelon régional. Alors là, on pousse le curseur, on va me dire, vers le fédéralisme. On pousse vers une forme de décentralisation peut-être qui nous emmènerait vers une révolution culturelle.
Ben voilà, deux idées intéressantes. Peut-être une troisième avec vous, Patrick Braouezek.
Je trouve que l'idée de Laurence est assez intéressante.
Il faut la travailler. Il faut imposer un peu de temps.
En tout cas, moi, je suis pour qu'on ait effectivement un véritable ministère des collectivités locales et de la décentralisation, parce que les choses sont intimement liées. Et je pense que séparer le ministère de l'Intérieur et avoir un véritable ministère de la décentralisation et des collectivités locales, ça serait utile pour tout le monde.
On a un ministre d'ailleurs de la cohésion des territoires aujourd'hui.
Cohésion des territoires.
C'est différent d'ailleurs.
Bah, oui, c'est différent.
On a du mal parce à comprendre d'ailleurs ce que
c'est. Dans la cohésion des territoires, il y a un peu tout.
C'est
il y a
un peu une nouvelle langue européenne. Le ministère des libertés locales, par exemple.
Par exemple,
oui, ou
d'autonomie locale.
Ouais.
Ça sera encore mieux.
Et bien voilà quelques propositions que nous allons soumettre de ce pas à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron, puisque comme le remaniement n'est toujours pas annoncé, peut-être que ça va leur donner des petites idées pour ce qui sera présenté, on ne sait pas quand, peut-être demain normalement, ça fera quand même 15 jours qu'on attend. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, Laurence Lemouzi, Jean-Christophe Boyer et Patrick Braouezek. Merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez chaque soir à 18h20, et j'en profite justement pour vous solliciter dans le cadre de la grande consultation que lance France Culture et Radio France, l'opération Ma Radio Demain. Comment est-ce que vous... Ma Radio Demain, parce qu'on l'a bien entendu, oui. Voilà.
Pas sûr.
Comment est-ce que vous voyez le futur de votre radio? Comment l'espérez-vous? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, que Arnaud Laporte et sa dispute changent de format, changent d'horaire? Eh bien, pour y participer, en tout cas, rendez-vous sur maradiodemain.fr. FR, voilà.
C'est un peu orienté, non, comme présentation.
Oui, bah
faut
voilà.
Que Grahamout disparaisse.
Non, ça par contre, non, ça fait pas partie de la consultation. Désolé, Ardo.
Si, c'est ouvert.
Est-ce que je peux remercier l'équipe?
C'est tout à fait ouvert. Ah, bah, il serait temps parce qu'avant de partir.
Virginie Leduo, Antoine Tricot, Isol Sicard, Antoine Ulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Jean-Frédéric.